Merci, prochain journal à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouvez une autre source. Ben merde.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources. Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. C'est le sujet qui a accaparé la presse en général et les réseaux sociaux ces quatre derniers mois. La loi travail, dévoilée en février dernier, a déclenché une crise sociale à rebondissement. Première manifestation en mars, manif syndicale, étudiante et lycéenne. Violence, violence policière et violence contre les forces de l'ordre. La CGT est pointée du doigt, l'essence qui manque. La grève dans les transports, une communication gouvernementale parfois contradictoire. Ajoutons à cela les inondations, l'euro de football, l'image de la France se dégrade. À l'étranger, nous dit notamment le Figaro. Quelle couverture médiatique de la crise sociale? Des journaux ont proposé des pistes pour sortir de la crise. Avec en filigrane cette question, la presse est-elle pro ou anti-CGT? On en parle ce matin dans le secret des sources avec nos invités. Laure Breton, bonjour.
Bonjour.
Journaliste politique à Libération. Fanny Guinochet, bonjour.
Bonjour.
Journaliste spécialiste des questions sociales au journal L'Opinion. Patrick Appelmuller, bonjour.
Bonjour.
Directeur de la rédaction de L'Humanité. Et en cours d'émission, nous serons en duplex avec Alberto Toscano, journaliste et écrivain italien et correspondant de la radio RAI à Paris. Notre regard extérieur qui nous accompagne aujourd'hui, Mariette Dary Grand, chroniqueuse, sémiologue du Secret des Sources. Bonjour Mariette.
Bonjour.
Fabrice Lorvaux, habitué de l'émission également, nous parlera de son livre numérique de la révolution au naufrage avec un point d'interrogation aux éditions Fauve. Bonjour Fabrice.
Bonjour Frédéric.
Dans les coulisses de l'émission, Mathias Mégy, Vincent Abouchard avec aux manettes aujourd'hui Jean Frédérics. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous écrire. Vous êtes chez vous sur France Culture et dans le Secret des Sources.
Haro sur la CGT, la presse quotidienne s'interroge ce matin sur la stratégie du syndicat de Philippe Martinez et la condamne assez unanimement.
La position de la CGT, elle est claire. Ce projet de loi, il n'est pas bon et il comporte notamment 5 ou 6 articles inadmissibles.
Monsieur Martinez, vous avez fait empêcher la publication des quotidiens nationaux parce qu'ils n'ont pas voulu publier votre tribune.
Je n'ai rien empêché du tout.
Bah si, c'est le syndicat du livre CGT qui a empêché l'apparition des quotidiens nationaux qui ne voulaient pas publier votre tribune.
Vous me posez une question, je ne vous dis que je n'ai rien empêché du tout.
Bah, le seul journal qui est sorti aujourd'hui, c'est L'Humanité. Et comme par hasard, c'est le seul qui a accepté de publier votre tribune.
Vous poserez la question au directeur de L'Humanité, moi je ne suis pas directeur journal.
L'exécutif qui trouve dans ces inondations l'occasion de parler d'autre chose que de la colère contre la loi travail. Et pourtant, si les piquets de grève et les manifestations sont passés au second plan médiatique, la contestation se poursuit.
Le secret des sources.
Voilà extrait sonore de l'actualité de ces derniers jours, mais également de ce qui se passe aujourd'hui. Et visiblement, en tout cas si on regarde les unes des quotidiens, la crise sociale, la contestation et les manifestations sont reléguées en page intérieure le plus souvent. Alors, est-ce que les inondations qui font les gros titres de presque tous les journaux arrivent, si l'on peut dire, au bon moment pour le gouvernement, Laure Breton, de Libération?
Je ne sais pas si c'est... On ne peut pas créditer François Hollande d'avoir fait pleuvoir sur la France, même si c'est un gimmick depuis le début de son quinquennat. Mais en tout cas, force est de constater effectivement que...
Est-ce que ça permet une respiration, peut-être?
Peut-être une respiration. On en a médiatiquement, effectivement, souvent on dit un événement chasse l'autre. Et l'ampleur des inondations, le fait qu'elles se rapprochent de Paris, fait peut-être qu'on s'est préoccupé dernièrement, dans la semaine qui vient de s'écouler, d'autre chose que du conflit social.
Mais en quelques heures, on est passé d'une star sur les images de télé qui n'est plus ni François Hollande, ni Philippe Martinez, mais le zouave du pont de l'Alma.
Oui, c'est un petit peu... c'est peut-être plus... je ne sais plus comment disent les Français quand ils prennent ce mot anglais. C'est concernant. pour les Français. Peut-être qu'on arrivait aussi médiatiquement, éditorialement, pas une impasse, mais en tout cas, on se demandait comment on allait pouvoir continuer à traiter ce sujet. On avait essayé la voie parlementaire, on avait essayé de parler des casseurs à Libération. En tout, entre le 20 février et fin mai, on a fait 21 sur le conflit social, ce qui veut dire en fait en 3 mois, 6 par mois. C'est beaucoup, donc oui, peut-être que c'est une respiration bienvenue.
Patrick Appelmüller, directeur de la rédaction de l'Humanité, cela veut dire que le mouvement social nous intéresse moins, nous, journalistes et lecteurs ?
Je crois qu'il y a effectivement un moment qui évidemment est assez tendu pour des populations entières avec les crues, et que c'est donc un sujet qui monte naturellement à la une de l'actualité. Je crois pas que les mouvements sociaux aient déserté le devant de l'actualité. Et lorsqu'on voit la place qu'ont tenue récemment les grèves des cheminots, les grèves dans les raffineries, désormais l'électricité, on a fait beaucoup de bruit autour de la raffinerie de Donges, qui soi-disant avait décidé de reprendre le travail. Le vote a eu lieu hier, qui reconduisait cette grève. Et puis, on s'aperçoit que, depuis des semaines, la presse prétend que le mouvement social s'effiloche et il ne cesse de rebondir. Je crois que c'est lié d'abord à une attention très forte de l'opinion à ce projet de loi et à son refus toujours très majoritaire dans l'opinion.
Fanny Guinochet, pour l'opinion, vous êtes d'accord, on est à la mi-temps, ça va repartir
On
se lasse un peu, y compris à l'opinion.
Je ne sais pas si on se lasse, non, parce qu'il faut suivre effectivement ce qui se passe et que la mobilisation, elle est toujours là, même si elle prend des formes différentes. Mais c'est vrai que les points d'orgue, on voit bien, il y a des endroits de crispation, c'est d'ailleurs la stratégie de la CGT, on en parlera, mais de faire plutôt des actions coup de poing, comme à la SNCF cette semaine, dans les raffineries. Mais la prochaine grosse mobilisation, elle est annoncée pour le 14 juin, et puis il y aura la reprise du travail parlementaire, même si le Sénat travaille en commission, au moment du passage au Sénat le 13. Et c'est vrai que, je ne sais pas si les Français se lassent, mais on voit bien que là, on arrive sur un faux plat, que même les leaders syndicaux restent mobilisés, mais ont du mal à renouveler leurs éléments de langage, les politiques aussi. Donc on voit bien qu'on a l'impression de faire de la redite. Donc bon, est-ce que les inondations tombent bien ? Je ne pense pas, mais en tout cas, qu'on parle d'autre chose, ça ne fait pas de mal.
Alors, la lutte syndicale contre la loi travail est diversement commentée dans la presse. À l'Humanité, Patrick Appelmüller, le fautif, le responsable de la situation, c'est l'exécutif. Et il y a un article paru la semaine dernière sous la plume d'Audrey Louswarne de l'Humanité qui nous dit que la CGT et Philippe Martinez sont devenus les cibles préférées des médias de masse. Qu'en dit le directeur de la rédaction ?
Je crois que ce qui est absolument frappant, c'est qu'on retrouve à peu près le même scénario qu'en 2005, au moment du référendum, où une majorité de la population refusait le projet de loi de constitution européenne, et où l'ensemble de la presse était mobilisée presque comme un seul homme pour vanter le oui. Là, aujourd'hui, l'ensemble de la presse, comme un seul homme, tape sur les syndicalistes à coups de caricature. Je pense notamment, de façon assez étrange, on ne parle que de la CGT, comme si Force ouvrière n'était pas en grève, comme si d'autres syndicats, d'ailleurs, je pense notamment à la CGC, le nouveau président de la CGC se prononce très clairement contre la loi travail, n'était pas dans ces mouvements, et puis avec un vocabulaire qui quelquefois frise l'insulte. Lorsque on parle de prise d'otages, de terrorisme, il ne s'agit pas de l'apanage exclusif de Monsieur Gattaz, ça s'est retrouvé très fréquemment sous la plume d'éditorialistes. J'ajouterais aussi que le recours à des clichés, par exemple la grève ne serait animée par la CGT que pour des intérêts électoraux et d'élections professionnelles. Qui croira que des salariés se mettent à 95% en grève dans une raffinerie en perdant des journées de salaire pour faire plaisir à ceux qui comptent les résultats électoraux de la CGT. Non, il y a une certaine manière de traiter l'information sociale et notamment en ne publiant pas précisément les conséquences des articles de la loi. Nous l'avons fait, nous avons même publié la loi intégralement, décryptée, commentée. Je pense que la presse, pour un mouvement d'aussi longue durée, Juré aurait pu faire le même effort.
Fanny Guinochet, l'opinion,
juste,
vous y répondre.
Oui, une réponse sur le nouveau président de la CGC. Il est élu depuis jeudi. Et on voit bien que dans le mouvement social, la CGC de Carole Couvert, donc la patronne de la CGC avant Monsieur Aubryl, qui a été élu jeudi à Lyon, avait une position nettement moins tranchée. Donc je pense qu'il a eu une belle interview dans Les Échos pour
et
dire
dans
et dans l'Humanité pour dire je ne suis pas d'accord, et il y en aura d'autres. Je pense que c'est que le début, il vient d'arriver. En revanche, pour Carole Couvert, c'était des positions beaucoup plus nuancées. Voilà. Par ailleurs, pour Effaut, Effaut s'est fait voler la vedette par Martinez. Effaut aujourd'hui n'a pas les moyens de bloquer, et là c'est une histoire de nombre, de force, de bloquer le pays comme a les moyens la CGT, qui est encore le premier syndicat de France. C'est aussi simple que ça.
Alors la CGT est très en avant, avec des actions coup de poing, comme vous disiez, et il y a avec nous les représentants donc de deux journaux qui la semaine dernière ont dénoncé l'attitude de la CGT. On va d'abord écouter Nicolas Bétou, directeur de l'Opinion, puis Laurent Geoffrin de Libération.
La CGT a exigé de la presse quotidienne nationale, des journaux, des grands journaux, la publication d'une tribune de Philippe Martinez. En fait, c'est un tract, parce que le document qu'on avait reçu était véritablement un tract. Ce qui est très grave, c'est à la fois le côté chantage à la démocratie, c'est tout de même une façon tout à fait inique et scandaleuse d'utiliser l'outil de travail. Et surtout, c'est l'intrusion du syndicat, de la CGT, dans le contenu des journaux.
On n'a jamais publié de communiqué sous la pression, on ne le fera jamais. Et donc on a bien fait de refuser, et c'est un refus unanime de tous les éditeurs, sauf un journal qui s'est couché, c'est l'Humanité. Et on voit le projet de la CGT, projet politique. Ben aujourd'hui, ce matin, dans les kiosques, il y a un seul journal, c'est l'Humanité. Et donc voilà, c'est ça le pluralisme selon la CGT. C'est un retour en arrière incroyable, ça s'est jamais produit. Hein. Il y a une chanson des Beatles là-dessus qui s'appelle « Back in USSR ». Ça veut dire « Retour à l'URSS ». C'est ça la conception politique de la CGT aujourd'hui.
Voilà, « Back in USSR », Nicolas Bétou et Laurent Geoffrin, très en colère la semaine dernière sur France Inter. On voyait Patrick Appelmuller pendant la diffusion de ces extraits remuer la tête en faisant non, mais on va...
En souriant.
Et en souriant. Fanny Guinochet, comment la réaction de l'opinion a-t-elle vécu cette demande de la CGT, puisque c'est Nicolas Bétou qui le premier en a parlé le jeudi matin, la semaine dernière?
Bah, la rédaction de l'opinion, elle a très mal vécu. Non pas parce que, je tiens à le préciser, ça venait de la CGT, mais parce que, comme l'a dit Laurent Geoffrin, et on est vraiment sur cette position-là, mais tout pareil, on n'a pas à être sous la pression, quelle qu'elle soit. Si aujourd'hui on accepte d'être sous la pression d'une demande syndicale, demain ça sera une demande politique, et on l'a vécu comme un véritable entaille à la démocratie, au pluralisme. Effectivement, on a décidé de réagir parce que ça, il y a souvent des grèves de par la CGT du livre, qui est très puissante sur la presse quotidienne nationale. Et là, c'était une grève un peu différente puisque c'était une grève sous le chantage. C'est soit vous publiez, soit vous n'allez pas paraître. Et donc, on a jugé que il fallait pas juste dire comme certains journaux, voilà, il y a une grève, vous n'avez pas vos journaux dans les kiosques ce matin, mais dire pourquoi.
Laure Breton de Libération, on est un cran au-dessus d'une grève classique.
Mais surtout, je voulais rebondir sur la façon dont ça s'est fait. C'est-à-dire que nous, on boucle Libération, on boucle maintenant à 20h. Et on a su vers 17h qu'on ne paraissait pas le lendemain. Comme dit Fanny Guinochet, souvent il y a des grèves, souvent on dit bah, demain on paraît pas, alors qu'on a préparé le journal pendant toute la journée. Et puis bah, à 18h, on arrête et on publie tout sur le web et puis c'est terminé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on ne savait absolument pas, on ne connaissait pas l'histoire de la tribune et de la demande, parce que c'est une tribune qui a été transmise via le syndicat de la presse quotidienne nationale, le SPQN. Et ça n'a pas été répercuté au directeur de journaux ce soir-là. En fait, on a commencé à l'apprendre plus tard, une fois que le bouclage était raté et qu'on ne paraissait pas. Et ensuite, on s'est mis à réaliser qu'il y avait cette histoire de tribune. Mais le journal, nous, les journalistes, on respecte le droit de grève et on s'est dit, bah, là, il y a un mouvement de grève contre la loi travail. Les syndicats du livre se mettent en grève. Bon, bah, voilà, on paraît pas. Sauf qu'après, on a compris qu'il y avait eu un donnant-donnant qui était effectivement inacceptable. Par ailleurs, on se posait la question de savoir si le mouvement était en train de s'essouffler. En tout cas, je me dis que peut-être médiatiquement, ça a été un cran trop élevé que la CGT a voulu atteindre et ce qui a peut-être fait basculer une partie de la couverture. J'en suis pas complètement certaine. Je pose la question.
Parce que la couverture lisée bien avant cet épisode, ce qui était la couverture des journaux à ce moment-là.
Patrick Appel-Muller, alors Philippe Martinez vous pose la question dans l'extrait sonore qu'on a entendu en introduction. Pourquoi avoir publié donc cette tribune?
J'écoutais tout à l'heure Laurent Geoffrin, ouais. Il aurait pu faire un petit effort d'argumentation, parce que l'Humanité publie une tribune de Philippe Martinez, ça ne paraît pas pour l'Humanité se coucher sur sa ligne éditoriale, c'est au contraire en parfaite cohérence. Et donc quand nous avons reçu cette tribune, elle n'a pas été présentée en termes de chantage, nous évidemment nous avons choisi de la publier, non pas en tract mais en tribune, comme un texte de Philippe Martinez. Moi je ne suis jamais enthousiaste quand les journaux ne paraissent pas. Je serais d'ailleurs très satisfait si nos confrères manifestaient le même souci de pluralisme en général, parce qu'aujourd'hui effectivement tous les journaux quotidiens nationaux sont détenus par le CAC 40, sauf l'Humanité, qui est le seul journal indépendant avec La Croix qui est lié au groupe Bayard. Tous les autres sont liés aux plus grandes fortunes françaises, et on se pose pas la question d'une diversité d'opinions et des moyens d'existence du pluralisme, des recapitalisations, etc. permettent aux journaux quotidiens nationaux, qui sont tous en déficit, de trouver les moyens d'exister. Ça n'est pas le cas, par exemple, pour l'Humanité, et je trouve que la confraternité en matière de pluralisme a des limites qui s'exercent en général. Et tout d'un coup, un retour de pluralisme revient quand une décision de ce type est prise.
Mais cette démarche de la CGT auprès des autres directeurs de rédaction, auprès des autres journaux, pour vous, Patrick Appel-Muller, vous pourriez le qualifier de grande maladresse, pour le moins ?
C'est une forme d'action qui ne m'enthousiasme pas du tout, mais l'exercice du droit de grève existe aussi pour les salariés du livre, et le moyen de faire grève, c'est de ne pas faire paraître des journaux, donc on ne peut pas leur reprocher de ne pas les faire paraître. Ça fait partie des droits. Mais chaque fois que les journaux ne paraissent pas, moi, comme directeur de la rédaction de l'Humanité, j'en suis extrêmement désolé, parce que nos lecteurs n'ont pas les moyens d'avoir une information, et une information différente, notamment.
Fanny Guinochet.
Je suis assez d'accord avec mon voisin sur le pluralisme et le manque de confraternité. En étant un nouvel entrant dans la presse, puisque l'opinion existe depuis 3 ans, on a pu voir combien on était soutenus par nos confrères et consoeurs de tous bords. Et moi, je trouve que c'est dommage, effectivement, qu'il y ait ce manque de confraternité. Après, pour ce qui est de la réponse de M. Martinez, qui dit « je n'ai rien empêché du tout », je trouve la réponse un peu courte, parce qu'il est quand même patron de la Confédération de Montreuil, et qu'on l'a vu jusqu'à présent, que c'était pareil pour l'affiche concernant la police, qu'il y a eu plusieurs dans la façon dont ce conflit social a été mené, et à chaque fois, la réponse a été « ça n'est pas de ma faute, c'est une fédération ». Alors, est-ce à dire que M. Martinez ne tient pas ses troupes? Je ne sais pas, mais c'est une lecture qu'on
peut... Non, mais c'est depuis la charte d'Amiens, la CGT s'est constituée en fédérations qui ont leur autonomie.
Je sais bien, mais je trouve en tout cas un peu court de dire « je n'ai rien empêché du tout ». Par ailleurs, on voit bien que la stratégie de M. Martinez est de dire « on nous a caricaturé, on ne nous a pas donné le micro, etc. ». Moi, j'étais à Marseille au congrès où il a été élu en avril, ce n'est pas si vieux. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de caricatures, y compris vis-à-vis de la presse. Alors, on peut regretter que la presse soit aujourd'hui détenue, et contrairement à ce que vous dites, je pense que par une poignée de très capitalistique, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Hein. On se pose tous la question, nous, en tant que journalistes, des actionnaires, etc. Mais M. Martinez, en tout cas, au congrès, dans ce congrès-là, dès le mois d'avril, c'était très, très, très violent à l'égard de la presse. À part l'Humanité qui n'était pas sifflée à la tribune et le journal interne de la CGT, tous les autres journaux en ont pris pour leur grade, y compris les journalistes qui étaient présents, ce qui était un peu désagréable.
Alors, durant ces mois de contestation et de manifestation, il y a eu beaucoup de violences, des violences physiques, et un journaliste indépendant de 28 ans, Romain, est toujours aujourd'hui dans le coma. Il y a eu aussi des violences dans les termes utilisés.
Tel que le dialogue. Je dis juste que je trouve ça insupportable de négocier sous la menace, des blocages, etc. C'est tout. Donc l'intimidation, la violence, la menace, ça suffit. Donc ensuite, en effet, qu'il lève les ponts, qu'il lève les barrages, qu'il laisse travailler les gens, et ensuite on négocie. Et deuxièmement, s'il y a une négociation en cours avec la CGT, pourquoi pas? Je ne sais pas de quoi ils vont parler. Ce que je sais, c'est que si il s'agit de l'article 2, ça va être extrêmement compliqué pour nous. Vous savez, cette loi a été vraiment complètement dépouillée de son intérêt. Je dirais qu'elle ne servira pas à grand-chose, mais nous pensons qu'il y a encore cet article 2 qui entérine cette fameuse inversion de la hiérarchie des normes.
La
CGT va porter plainte pour diffamation. C'est absolument scandaleux que dans un pays qui a connu ce qu'il a connu, où je le rappelle, des amis de la CGT, je pense aux journalistes de Charlie, qui étaient des proches, certains étaient syndiqués, qu'après ce qui s'est passé au Bataclan, où des militants de la CGT aussi ont été victimes du terrorisme, et bien qu'un représentant national du patronat puisse faire de tels amalgames, ça contribue à jeter de l'huile sur le feu et à rendre encore plus compliqué un climat qui n'est pas serein.
Voilà Pierre Gattaz, président du MEDEF, et la réponse de Philippe Martinez de la CGT sur France Info. Alors pour bien comprendre la réponse de Philippe Martinez, ce qui n'est pas dans l'interview de Pierre Gattaz sur France Info, mais qui est dans le journal Le Monde, Pierre Gattaz déclare qu'il y a une minorité qui se comporte comme des terroristes et qui bloque tout le pays. Et ça, cette phrase est dans le journal Le Monde et n'est pas reprise au micro de France Info. Laure Breton, il y a une surenchère terrible dont on se fait le porte-voix.
Dans la bouche des principaux acteurs, c'est certain. Après, la distance journalistique, la distance éditoriale et le sérieux éditorial, c'est effectivement de ne pas rentrer dans cette surenchère. Après, je réfléchissais, je me disais, Libération, on a l'habitude de faire des titres, d'avoir une titraille qui est assez reconnaissable. Et je sais qu'on réfléchit énormément depuis le début de ce conflit social à ne pas tomber dans une outrance ou dans l'autre, en fait. Et j'ai fait une petite recherche et en fait, on est resté à tension. On est resté à bras de fer, on est resté à compromis, on est resté à des titres d'édito ou des titres de une qui étaient souvent en mode interrogatif. C'est où la sortie? Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Est-ce que vous êtes sûr? Donc en fait, on essaye de peut-être pas de temporiser, mais en tout cas de calmer le jeu et de faire un travail journalistique basé sur des faits, sur des enquêtes quand il s'agit des casseurs ou quand il s'agit des violences policières, et de ne pas prendre un parti éditorial de surenchère.
Fanny Guinochet,
je pense qu'effectivement la surenchère est très malvenue. Je suis assez d'accord je ne sais plus qui disait ça, sur l'hystérisation actuelle, que ce soit de tous les acteurs. Je ne pense pas que les propos de Pierre Gattaz, d'ailleurs, il est revenu dessus par un communiqué 24 heures après, son interview du Monde, en disant que le terme terroriste avait été malvenu, maladroit, je ne sais plus comment
Depuis, on a François-Olivier Gisbert qui dit il y a deux ennemis en France, Daesh et la CGT.
On est dans le délire.
Mais voilà, on voit bien qu'on est dans l'amalgame et que c'est profitable pour personne, et que en plus ça n'élève pas du tout le débat, puisque on a beaucoup parlé de l'article 2, mais il y a quand même un certain nombre d'autres articles dans cette loi qui,
comme
du
l'article
coup,
11 par exemple, non, mais qui du permettent coup, de licencier
totalement
pour les grandes entreprises sans
au travers raison. Et c'est vraiment de l'analyse et c'est vraiment préjudiciable.
Laure Breton,
moi, je voulais rebondir. Fanny Guinochet disait que cette outrance ne servait personne. Je pense qu'elle sert quand même quelqu'un. Elle sert Manuel Valls dans cette histoire. Parce que le face-à-face, toujours plus médiatique et toujours plus violent entre Gattaz et Martinez, ça le recentre complètement. Et ça lui permet de jouer cette semaine le côté serein, le côté force tranquille, le côté homme qui a du temps pour réformer la France et qui va y arriver et qui va tenir.
Donc, et qui ne varie pas dans ses déclarations, mais qui baisse lourdement dans les sondages.
Ah, oui,
avec François Hollande.
Je pense que leur pari, en fait, à l'exécutif, c'est que la réforme passera et que donc petit à petit, ils recapitaliseront sur le fait d'avoir tenu bon.
Le secret des sources. Frédéric Barrère.
Avec nos invités, Fanny Guinochet, Laure Breton, Patrick Appelmüller. Et il y a un élément très important sur cette couverture de la crise sociale. Et je vous donne la parole, Fabrice Lorvaux, avocat, spécialiste du droit des médias. Et cet élément, eh bien, c'est les réseaux sociaux, Twitter, qui impose une façon de rendre compte de cette crise sociale.
Oui, on parlait tout à l'heure de la difficulté d'élever le débat. Effectivement, on doit s'interroger sur le rôle que jouent aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font partie de la révolution numérique et ont profondément modifié la manière de communiquer et la place des médias, qu'on va appeler traditionnels, d'abord en mettant fin à leur modèle économique. Il faut quand même rappeler que tout ce qui est le droit de la presse, presse était sur le contrôle du support papier, puis du support audiovisuel, et laissé à des journalistes professionnels. Or, aujourd'hui, un nouveau support est arrivé, c'est le support numérique, et qui peut être utilisé par tout à chacun. Donc, on a quelque part là-dessus un effondrement du modèle juridique, et aussi un effondrement du modèle économique, puisque la révolution numérique a apporté la gratuité d'une part dans l'esprit des gens, et aussi à capter une très grande partie des annonceurs, ce qui va quand même réduire aussi les moyens de la presse traditionnelle. Et c'est dans ce contexte aussi que la révolution du numérique et donc les réseaux sociaux ont quand même imposé d'abord une immédiateté dans ce qu'ils prétendent être l'information, c'est-à-dire que n'importe qui peut tweeter une photo en étant au cœur de l'actualité, mais donner aussi une vision qui est quand même partielle de l'événement, ce qui va aussi influer la presse, puisque la presse traditionnelle est aussi très à l'écoute de ce qui se dit et de ce qui est amplifié dans les réseaux sociaux. Donc quelque part, les réseaux sociaux aujourd'hui se placent vraiment, et on parlait d'élévation du débat, dans une approche qui est uniquement basée sur l'émotion. On parlait des violences policières. Tweeter une photo sur une violence policière n'est pas la preuve absolue que les policiers sont violents. Et donc, effectivement, ça privilégie l'émotion et donc pas forcément le raisonnement. Et ça rend aussi plus difficile le rôle des médias traditionnels parce qu'ils sont obligés aussi d'être un peu à l'écoute de ce qui se dit sur les réseaux sociaux.
Merci Fabrice Lorvaux. Et on va retrouver Alberto Toscano en duplex avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste et écrivain italien, Alberto Toscano, quelle est l'image de la France en Italie en ce moment?
En Italie, en ce moment, c'est une image évidemment difficile et précaire, plein de problèmes. Je veux seulement vous dire que je suis arrivé ce matin de Paris à l'aéroport de Milan et mon chauffeur de taxi, en sachant que je venais de Paris, il m'a dit comme première chose, « Oh, poveri francesi !» Il m'a dit, « Les pauvres, enfin, les Français, les malheureux, parce qu'ils ont le terrorisme, parce qu'ils ont les grèves, parce qu'ils ont la violence des casseurs, et maintenant, le mauvais temps. » Les images qui ont été transmises à l'opinion publique italienne ou internationale sont des images, quelque part, très négatives. Évidemment, pour des raisons totalement différents les uns des autres. Les inondations n'ont rien à voir avec le terrorisme, qui n'a rien à voir avec les grèves, qui n'a rien à voir, aussi quelque chose à voir avec les casseurs, oui. Mais cette image d'une ville, Paris, traumatisée par des actes terroristes qui se sont répétés pendant l'année dernière, même l'angoisse, ce qui se passait dans les pays d'à côté, la Belgique, toujours à cause du terrorisme. Évidemment, c'est une rafle de messages inquiétants qui, à partir de Paris, qui, à partir de la France, sont arrivés dans le reste de l'Europe.
Il y a cette image, et est-ce qu'on a aussi l'image d'un pays qui n'arrive pas à se réformer, qui est empêtré dans ses contradictions, dans ses luttes, et qui n'arrive pas à faire ce qu'a fait l'Italie?
Oui, vu d'Italie, où on peut dire tout ce qu'on veut de Matteo Renzi, et de sa réforme du marché du travail, on peut la critiquer. Il y a des aspects qui méritent effectivement d'être critiqués. Mais on ne peut pas nier que Matteo Renzi, ce jeune premier ministre italien, président du Conseil italien, a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire réformer le marché du travail. Et en France, on a l'impression que le gouvernement soit en difficulté, soit condamné à l'immobilisme là-dessus. Et évidemment, on peut critiquer la réforme actuelle du marché du travail en France, voulue par Manuel Valls et le président de la République. Mais cette idée comme quoi, en France, on n'arrive jamais à faire passer une réforme sur ce terrain est une idée qui fait tache d'huile dans la perception des autres pays européens, des autres opinions publiques européennes et en particulier aujourd'hui de l'opinion publique italienne.
Alberto Toscano, en un mot, vous êtes italien, j'imagine que vous et le pays devez avoir quand même le cœur qui palpite à 6 jours ou 7 jours de l'ouverture de l'euro et sur la capacité de la France à assurer le bon déroulement de la compétition.
Moi j'habite depuis 30 ans à Paris et je n'ai aucun doute sur le fait que la France réussira à gagner ce pari d'assurer le bon déroulement de la compétition. tout l'appareil de l'État français, quand il est mis dos au mur, il réagit avec de l'efficacité. Le problème de la France est qu'il n'arrive pas à se réformer, mais quand il s'agit pour l'appareil de l'État de relever un défi d'organisation, il est toujours à la hauteur de ce défi.
Merci, merci Alberto Toscano en duplex d'Italie. Beck, chanteur et compositeur californien, et son titre « Wow » qui vient de sortir en single. « Wow », je me tourne vers vous, Mariette Darigrand, sémiologue. Quel regard portez-vous sur la couverture médiatique de cette crise sociale? Alors, il y a des personnalités, des héros qui se dégagent avec un petit côté théâtral.
Oui, il y a vraiment un théâtre. D'ailleurs, vous l'avez dit tous les trois. Enfin, je crois, en parlant de caricatures, en parlant de personnages comme ça qui arrivent, effectivement, le politique qui résiste à tout aujourd'hui, c'est l'image du politique, soit Hollande ou Manuel Valls. Il y a un politique comme ça qui est d'abord quelqu'un qui tient dans la tempête. Bon, c'est un personnage. Le méchant syndicaliste, c'est un autre personnage avec des caricatures incroyables. Comparé à un syndicaliste, à un terroriste, c'est un dérapage. Mais un méchant patron horrible, abominable, c'est un dérapage aussi. Parler de Germinal, de retour de Germinal, comme j'ai vu dans les manifs, c'est complètement ridicule. Donc tout ça, ça fait que nous sommes effectivement devant un théâtre de rue, royal de luxe, vous savez, des gros personnages, comme dans la farce du Moyen-Âge, hein, c'est des caricatures énormes. Alors pourquoi c'est embêtant? Parce qu'après tout, on pourrait s'en amuser, c'est la société du spectacle, on connaît bien ces mécanismes-là. Je crois que c'est embêtant aujourd'hui parce que, au-delà de caricaturer, il y a ce qu'on appelle en sémiologie ou en linguistique, ces personnages-là, ce sont des actants. C'est même pas des acteurs, ce sont des actants. Qu'est-ce que c'est qu'un actant? Si vous avez fait un peu de révision avec vos enfants, on apprend ça maintenant au collège. L'actantiel, c'est une façon de regarder des récits. Du conte, du merveilleux. Hein. Quand c'est la quête du Graal, ça va. Quand c'est la dernière grève, c'est plus embêtant pour une démocratie. Parce qu'un actant, c'est un personnage qui est totalement figé dans sa fonction. Donc, arrêter une loi ou maintenir une loi, c'est exactement la même chose. Il a des opposants, le méchant flic, le méchant casseur, par exemple. Il a des adjuvants, le gentil peuple, avec un grand P. Tous ces personnages-là sont avec des majuscules. Et si on est juste dans un regard comme ça de réception et puis de spectacle, pourquoi pas? Si on est devant le problème dont parlait Toscano à l'instant, c'est-à-dire la difficulté de se réformer, c'est crucial et fondamental. Parce qu'on se sort de l'histoire quand on fait ça, avec un grand H. Hein. On est dans un récit merveilleux qui empêche, qui nous fait patiner dans la semoule. Nous sommes des hamsters qui patinons dans le vide. Et pendant ce temps-là, l'histoire s'écrit sans nous. Parce qu'il faut quand même agir sur le réel. Et c'est ça que nous avons du mal à faire en France aujourd'hui. Donc là, nous avions la grève. Le mécanisme actantiel va se reporter sur l'inondation, puis sur l'euro, puis sur le départ en vacances, puis ça reviendra à la rentrée sociale sera chaude. Donc nous faisons du cycle et nous n'écrivons pas l'histoire.
Et on oublie de parler des vrais sujets, des sujets de fond, de la lutte peut-être syndicale?
Alors là, en l'occurrence, il y avait bien sûr un deuxième sujet. Tout ça, ce sont des manichéismes, ce sont des affrontements terme à terme. Il y avait les syndicalistes contre l'État, mais il y avait aussi deux syndicats qui s'affrontent entre eux. Et ça a été dit par une certaine presse dans une certaine analyse. Mais il faut aller chercher vraiment l'article tout au fond pour analyser ça. Globalement, ça n'est pas ça qui est dit. Donc on voit que les vrais sujets sont mis sous le boisseau. Et puis, surtout, on empêche, à mon avis, mais parce que c'est beaucoup plus difficile. Là, vous avez très bien dit que c'était difficile pour les journalistes, dans ce cadre-là, de vraiment analyser, aller creuser, donner des choses complexes et subtiles, car cette loi travail repose sur des paradoxes, des choses très difficiles à faire comprendre. Pourquoi un CDD, à un moment donné, est peut-être porteur de plus de sécurité pour le salarié? Ben oui, mais ça, il y a des gens qui peuvent l'expliquer. Non, mais après, on est idéologique. Enfin, je veux dire, pourquoi pas, l'affrontement peut être idéologique. Mais il y a des... Ce que je veux dire, c'est que le problème est tellement complexe que je crois une façon de le caricaturer, comme vous l'avez dit tous les trois, enfin, en tant que journaliste, eh bien, c'est une façon aussi d'échapper un peu à la nécessité pédagogique.
Et je voudrais, si vous permettez, interpeller la sémiologue en lui citant Brecht sur l'art des dominants de lessiver les mots. Et précisément, vous utilisez le mot réforme sans l'interroger.
Il s'agit Je ne l'ai pas utilisé.
La difficulté à réformer. Bon, à réformer la France. Et Toscano a fait exactement la même chose. Mais ce ne sont pas des réformes, ce sont des marches arrière sociales. Ce ne sont pas des progrès, ce n'est pas de la modernité. On oublie de dire qu'en Italie, il y a eu 1 million de personnes qui ont défilé à Rome contre les lois Renzi, qui n'ont pas été écoutées.
Le mot réforme, voilà. Il est un mot qui ne convient pas du tout à ce qui se passe.
C'est un mot qui est fait pour masquer les réalités. Et soit on doit adorer la réforme, si on la combat, on est un archaïque. Or, il ne s'agit pas de réforme, il s'agit de marche arrière sociale sur des constructions collectives qui ne sont pas l'absence de propositions, c'est pas le conservatisme.
Je vois Fanny Guinochet qui s'agite.
Alors après, effectivement, le mot réforme, c'est devenu un mot valise. On voit bien aussi d'ailleurs que c'est devenu un mot chantage dans la bouche des leaders syndicaux. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que dès le départ, sur cette loi travail, il y a eu, et là je suis désolée, mais des caricatures ou en tout cas une pédagogie qui ne s'est pas faite. Et c'est une pédagogie qui ne s'est pas faite, notamment du côté du gouvernement, parce que le droit du travail est extrêmement complexe, que là, pour le coup, ça a fuité aussi dans la presse, le projet de loi dans Le Parisien. Tout le monde a été pris de court, le gouvernement a été pris de court. Ensuite, Myriam El Khomri a fait une interview dans Les Échos, où à la fin, il y a eu Macron qui a fait rajouter une petite phrase sur le 49-3. Enfin, Valls a fait rajouter, voilà, comme quoi il y a des lapsus. Bref, c'était Valls que je mentionnais. Ça a tout de suite démarré dans un brouhaha. Je ne sais pas comment les gens pouvaient s'y retrouver. Et effectivement, derrière, là où les opposants à la loi travail ont été très forts, c'est que très vite, ils ont emprunté des retours sur Germinal, sur le travail des enfants. Enfin, on était revenu un siècle et demi avant. Enfin, c'était absolument. Et on n'en est pas sorti. D'où aujourd'hui le sentiment que les gens ne comprennent pas cette loi. Finalement, personne vraiment ne la connaît. Alors, on aurait peut-être dû en faire plus.
C'est un gros document qu'elle a publié.
Non, mais c'est je suis bien d'accord avec vous. C'est un énorme document. Mais du coup, par rapport à l'Italie, en tout cas, une chose est sûre, c'est que par rapport au Matteo Renzi, n'a pas pris de court les gens. C'est-à-dire qu'il a été élu sur ce programme-là, qu'il allait toucher à la réforme du Code du travail ou du marché du travail. En France, Hollande ne l'a pas dit. Et je pense que c'est aussi ça. Il y a des histoires de timing. Ça vient après la déchéance de toute la séquence sur la déchéance de nationalité. Et du coup, ça a été extrêmement mal perçu. Voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un brouhaha. Et je vois pas comment le gouvernement, en termes de pédagogie de cette réforme, ou en tout cas de ce texte, peut rectifier le tir.
Merci. Merci à tous pour ce débat.
Le secret des sources.
Voilà, on a abordé le rôle des réseaux sociaux dans la couverture de la crise sociale et on vous retrouve Fabrice Lorvaux, avocat spécialiste du droit des médias, pour votre livre numérique de la révolution au naufrage, avec un point d'interrogation, un essai publié aux éditions Fauve. Alors pourquoi cette question, Fabrice Lorvaux, de la révolution au naufrage? Ça nous fait un peu peur, c'est une menace?
Non, alors le but c'est absolument pas d'être anxiogène, mais il faut prendre la mesure de cette révolution numérique et surtout bien conserver à l'esprit son aspect ambivalent. C'est-à-dire que le numérique apporte à la fois le meilleur et le pire, mais il faut bien garder à l'esprit que ce n'est qu'un outil, et un outil, on est censé apprendre à s'en servir, et l'outil, il doit être au service de l'homme, et ce n'est pas l'homme qui doit être au service de l'outil. Donc, il ne s'agit pas de... C'est une révolution, elle est intervenue, c'est notre quotidien, il s'agit pas... On ne peut pas revenir en arrière, mais seulement, il faut effectivement, déjà en prendre prendre la mesure et tenter de la contrôler. Pourquoi en prendre la mesure? Bien, c'est parce qu'elle a quand même profondément et en, modifier notre rapport, nos rapports entre nous, et aussi c'est ce que j'essaye de démontrer, notre rapport au temps, puisque cette révolution numérique a réussi à supprimer le passé, à imposer un présent immédiat, et aujourd'hui elle s'intéresse au futur en essayant de supprimer l'aléa.
Alors c'est ça que je comprends mal. Le numérique supprime le passé, mais les données sont là et elles ravivent le passé sans arrêt.
Oui.
On retrouve des photos de vous, plein de choses qui traînent sur Internet.
Mais parce que justement, ce passé n'est plus le passé. Le passé, il est lié à l'oubli. Le passé, dans notre vision, c'est ce qui est loin. Et en fait, le seul antidote qu'il y avait au passé, et donc à l'obscurité sur ce qui est arrivé, c'est la mémoire. Et la mémoire, c'était un projecteur dans cette nuit qui n'éclairait, si vous me permettez cette expression, que certains éléments. Or, aujourd'hui, le numérique, lui, a inventé le caractère impérissable des données. Et en plus, ces données sont immédiatement accessibles par les moteurs de recherche. Et donc, en conséquence, ce qui était le passé et lié à l'oubli, n'existe plus. Et on est donc dans un présent permanent. C'est pour ça qu'on peut dire que, en ayant supprimé l'oubli qui était venu soit naturellement par destruction du support, un papier, ça n'a pas une durée de vie éternelle, ou alors ce que j'appelle l'enfouissement du support, un journal succède à un autre journal. Donc aujourd'hui, nous avons des données qui sont impérissables techniquement et qui sont immédiatement accessibles. Et donc, ça nous met dans l'obligation de tenter de recréer un droit à l'oubli, et on s'aperçoit que ce droit à l'oubli, il est difficile à établir parce qu'il faut faire la distinction entre ce qui peut être oublié, ce qui ne peut pas l'être, ce qui est révélé par les tiers, et notamment par les journalistes, ou ce qui est révélé par la personne. Mais tout ça reste, et tout ça pourra être retenu contre vous. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement sensibiliser notamment les jeunes, et notamment à l'école, sur le fait que maintenant, le passé n'existe plus, et que tout ce que vous avez mis sur le net pourra être retenu contre vous.
Alors, les incidences, Fabrice Lorvaux, de la révolution numérique sur le futur. On a parlé du passé, du présent et sur le futur.
Alors le futur, c'est effectivement ce dernier bastion que le numérique est en train d'essayer de détruire ou de contrôler. Je pense notamment à la question des algorithmes prédictifs des comportements humains. Alors là encore, les algorithmes prédictifs, quand ça va prédire des catastrophes naturelles, des maladies, tout ça, c'est effectivement extrêmement louable. Mais on s'attaque aussi à la prédiction des comportements humains, notamment en matière de délinquance. Vous avez des algorithmes qui vont vous fixer le taux de récidive probable d'un individu ou effectivement sa dangerosité. Et c'est là où je dis qu'il faut être extrêmement prudent parce que si on s'en remet à ces algorithmes, ça veut dire qu'on valide la notion du déterminisme, c'est-à-dire que le comportement humain est modélisable. Ça, c'est une question et c'est sûrement pas à des ingénieurs ou à des mathématiciens d'apporter la réponse. Je pense que ça doit faire l'objet d'un débat. Et ce n'est pas uniquement des questions limitées, cet aléa à la question de la délinquance. Le problème se posera, par exemple, sur la voiture autonome, dont on nous dit qu'elle arrivera bientôt. Qu'est-ce qui va se passer lorsque deux voitures vont être obligées de se percuter? Laquelle va être jetée dans le fossé? Est-ce qu'on va programmer la plus vieille voiture, la moins vieille? Ou on va prendre en considération le nombre de passagers, l'état des passagers? Voilà. Donc là, il y aura forcément des réponses. Et je dis que...
Je vous assure, vous nous faites un peu peur quand même.
Non, mais c'est une évolution. Il faut juste essayer d'accepter et regarder en face qu'on est en train de modéliser le comportement humain. C'est peut-être nécessaire, mais encore une fois, il ne faut pas le laisser au secteur privé ou à des ingénieurs. Il y a une dimension éthique dont il faut avoir conscience maintenant. Pour le moment, on pose la question et c'est à nous d'apporter la réponse.
Merci Fabrice Lorvaux, numérique de la révolution à l'ouvrage aux éditions Fauve. Le clin d'œil de l'émission de Yacine Bouzard qui revient pêle-mêle sur les actualités de la semaine.
Les personnes ayant été évacuées sont invitées à se diriger vers les bus situés au bout du pont de la Fraternité.
Buonasera.
Fratelis et Fili et Spiritus Sancti.
Et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours
et 40 nuits.
J'ai toujours payé mes impôts. Je n'ai jamais fait l'objet d'un redressement fiscal. Après, il y a des gens qui veulent créer des polémiques. Il y a manifestement une volonté qui arrive à un moment qui n'est pas innocent.
Fratelis, et fili, et spiritus sancti.
Les élèves ont été malmenés, tirés, poussés et jetés par les policiers qui sont passés en force pour aller ouvrir le portail.
L'élève de 3e a une luxation du poignet gauche, il témoigne.
J'étais devant le portail, puis il y a deux policiers qui m'ont attrapé et qui m'ont lancé en fait. Mes pieds ne touchaient plus le sol.
Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche et elle s'éleva au-dessus de la terre.
Moi, je déplore vraiment que s'installe une terreur antiraciste.
Je pense que Benzema a raison de dire que nous sommes dans un pays où le racisme augmente.
Les eaux furent grosses sur la terre
et fili
pendant 150 jours.
Et spiritu santi.
Tout le canapé, tous les fauteuils, tout ça, ça flotte dans l'eau. C'est la catastrophe.
Merci à tous. L'émission se termine. J'ai eu le plaisir de recevoir ce matin Fanny Guinochet, journaliste à l'Opinion, spécialiste des questions sociales. Laure Breton, journaliste politique à Libération. Patrick Appelmuller, directeur de la rédaction de L'Humanité. En duplex avec nous, Albert Toscano, journaliste et écrivain italien et correspondant de la RAI Radio à Paris. Merci également à Fabrice Lorvaux pour son livre Numérique de la Révolution au naufrage, avec un point d'interrogation, aux éditions Fauve. Notre regard extérieur qui nous a accompagné aujourd'hui, Mariette Darigrand, sémiologue, le clin d'œil de Yacine Bouzard que l'on vient d'entendre. Et puis, événement France Culture ce week-end avec le Centre Pompidou. France Culture vous accueille aujourd'hui et demain de 11h à 20h, un week-end dédié à la création et aux idées, avec des débats, des rencontres, des surprises, mais aussi des jeux, du spectacle, des spectacles et de la musique. France Culture crée l'événement avec le Centre Pompidou, week-end imagine, gratuit et ouvert à tous. Dans un instant, le journal, suivi de répliques. Faut-il avoir peur du monde qui vient ? Alain Finkielkraut reçoit Luc Ferry et Michel Onfray. C'était le secret des sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal et répliques. Bonne journée sur Culture et au Centre Pompidou pour le week-end imagine.
L'ensemble de la presse, comme un seul homme, tape sur les syndicalistes à coups de caricature. Je pense notamment, de façon assez étrange, on ne parle que de la CGT, comme si Force Ouvrière n'était pas en grève.
La distance journalistique, la distance éditoriale et le sérieux éditorial, c'est effectivement de ne pas rentrer dans cette surenchère. Donc en fait, on essaye de calmer le jeu et de faire un travail journalistique basé sur des faits, sur des enquêtes, quand il s'agit des casseurs ou quand il s'agit des violences policières.
On se pose tous la question, nous, en tant que journalistes, des actionnaires, etc. Mais M. Martinez, en tout cas, au congrès dans ce congrès-là, dès le mois d'avril, c'était très, très, très violent à l'égard de la presse.